s'élargissant vers le sud. Appuyé contre la forêt et ouvert sur la plaine, quelques corps de bâtiments rebâtis avec patience au fur et à mesure des guerres, des invasions, dans le même style, sobre, réduisant à presque rien les goûts de chaque époque. Et ces édifices, qui d'un côté se fondent par la couleur et les volumes dans le paysage, d'un autre paraissent prendre leur distance avec lui, ne cèdent rien, font toute réserve sur cet emplacement de hasard. C'est ici, ce pourrait être ailleurs, avait pensé Nathanael. Cette impression bizarre, qui déroutait tant de pèlerins, lui avait communiqué une de ces joies presque sans mélange qu'il n'était plus habitué à ressentir. Sitôt passé une sorte de portique en plein champ, vestige du logis des pères abbés du XVIIIe, on parvient à la clôture, l'hôtellerie, une ancienne grange flanquée d'un pigeonnier, s'élevant en limite du territoire monastique. Les voix des frères portiers se ressemblent toutes. Les mots et les questions sont les mêmes depuis longtemps, aussi l'attention légère portée aux visiteurs. Lorsqu'on l'avait conduit à l'hôtellerie peu après les vêpres, la nuit tombait déjà. Ce mot d'hôtellerie l'avait fait sourire. Dans sa jeunesse, il avait aimé les hôtels. Avant de revenir à Villers, il en avait connu de toutes sortes. Les grands hôtels du monde, comme ce Shepheard's du Caire où certains soirs il n'avait pas voulu pénétrer, et le Pera Palace et les grands caravansérails protestants du port de New York, mais aussi les hôtels de village réquisitionnés pendant la guerre et où, vers la fin, les officiers partageaient leurs chambres avec la troupe. Il se souvenait particulièrement d'une auberge de Dole dont les canalisations avaient éclaté et où les fantassins brûlaient dans la salle commune des meubles en noyer ciré. Pendant que de grosses larmes roulaient sur les joues de la propriétaire était-ce elle écue d'or ou le Jura, les hôtels, c'était la vie vagabonde d'avant le Berry, où il aurait tant voulu être heureux sans bouger. Et l'hôtellerie des Chartreux le ramenait en arrière vers ses premiers élans, mais cette fois ce désir confus d'être ailleurs, contre lequel il avait vainement lutté, n'était plus douloureux. Le père abbé, il l'avait connu autrefois à l'armée Bourbaki. Heureusement qu'il y a le bon Dieu, disait-il en pleine débâcle. Nathanael ne voyait pas pourquoi. Ils marchèrent ensemble le long de la forêt sans beaucoup parler d'eux-mêmes. Le Chartreux évoqua les lois religieuses. D'abord nous n'avons rien, et puis l'expulsion, nous sommes si près de la Belgique presque déjà dehors, personne ne nous voit, ils ont dû se dire que ce n'était pas la peine. Nathanael assistait aux offices et même aux longs offices de nuit. Un jour seulement, au cours de la promenade, il dit à l'abbé, « J'ai buté sur tant de choses dans ma jeunesse, aujourd'hui je suis content. » Le moine lui sourit sans répondre. Il s'alita un mardi d'avril peu après Pâques et s'affaiblit très vite. Il est bien temps, non, il fut quelques jours dans l'inconscience. Lorsqu'il revint à lui, le père abbé était à son chevet. Nathanael le regarda, une lueur passa dans ses yeux calmes était-ce du chagrin, et il mourut sans prononcer un mot. 17 Romain Augustin aurait aimé, parfois, redevenir enfant. Il conservait le regret d'un monde comme sur les images. Et plus Marie-Antoinette se rapprochait de lui, occupant sa vie, plus il rêvait à ses premières illusions de l'amour, aujourd'hui disparues, où le regard, la voix de l'objet aimé se mêlent à des impressions fugitives, charme d'une maison, bruit des portes, parfum pour composer ce paysage animé enchanteur, où l'on croit, mais à tort, qu'on s'arrêtera enfin. Il connut la tentation de partir, de quitter Marie-Antoinette, bien sûr, mais aussi Paris et l'hôpital et même Bussy, d'aller diriger l'hôpital français de Constantinople ou s'embarquer sur le bateau de Peary pour le pôle Nord. Il eut le courage de n'en rien faire. Il savait bien, d'ailleurs, que changer de place l'aurait simplement fait passer de l'insatisfaction à bien pire. Il le croyait, du moins. Nathanael de Bussy, lui, n'avait pas su rester sourd aux appels de l'adolescence. Il avait fui très tôt, était revenu, et n'avait pu conquérir ce bonheur auquel il croyait, qui n'était pas pour lui un mot dépourvu de sens. Pour finir, il n'avait, apparemment, retrouvé la paix qu'en se mettant en route à nouveau. Voilà un an qu'il était mort et Augustin se souvenait encore de lui, de ses gestes familiers, de la couleur de ses costumes. Il se rappelait leur dernière conversation dans le parc de Villers et à Bussy pendant l'hiver. Il avait aimé Nathanael. Le vieux vagabond avait lutté, se disait-il, et n'avait jamais perdu en dignité. Mais pour un Bussy, combien de fuyards de la vie, victimes d'eux-mêmes, il savait qu'il aurait suffi de peu pour qu'il les rejoigne. Il fit un effort sur lui-même, mais en même temps, il dut convenir qu'il avait trop attendu de l'amour, trop attendu aussi de la discipline qu'il avait voulu pour sa vie, trop attendu en somme des circonstances. « Il me reste à accepter, se dit-il, à accepter sans imaginer que j'y trouverai une véritable consolation. » Quand l'Autriche annexa la Bosnie-Herzégovine, puis, un peu plus tard, quand les Bulgares partirent en guerre, il y eut de l'émotion en Europe et de la fièvre dans le Berry. Augustin pourtant n'avait pas touché au salon vert. La fièvre retomba. De fait, il tournait autour de cet endroit, si bien qu'il y eut, à la fin, une sorte de vide au centre de la maison, un espace désert apparemment aussi sacré que la chambre funéraire au milieu d'une pyramide, que le respect aurait conduit, non à embellir mais à oublier. Ils en souriaient quand même. Maintenant deux des boiseries étaient fendues, une moulure du plafond effondrée, et la peinture se détachait par plaques. Personne ne venait plus dans ce cercle magique. Les trois portes du salon étaient toujours fermées. On ne le voyait que de l'extérieur, soit du haut du perron arrière, soit de plus loin, du bout du champ, et il donnait alors à la maison tout entière un air abandonné.